Trace de lumière, Christian Malaplate.
Radio FM plus 91 FM Montpellier présente Trace de lumière, une émission réalisée par Christian Malaplate avec Yann et Michaela Technique et les mêmes participations de Viviane Nau. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à la rage de l'expression, le voyage poétique de Francis Ponge. La rage de l'expression est un recueil poétique de Francis Ponge qui repousse les limites du langage pour explorer les objets du quotidien sous un nouvel angle. Francis Ponge, dans la rage de l'expression, transforme les objets les plus banals en sujets de poésie passionnants. Qu'il s'agisse d'une orange, d'une huître ou d'une allumette, Ponge accorde à chaque objet une attention méticuleuse, capturant son essence et sa beauté dans le moindre détail. L'originalité de son approche tient en grande partie à son utilisation du langage. Pour Ponge, le langage est un outil d'exploration qui lui permet de s'immerger complètement dans le monde des objets. Il cherche à décrire chaque objet avec une précision et une exactitude quasi scientifique, tout en révélant ses qualités esthétiques. Il s'efforce de trouver les mots les plus justes, les plus appropriés pour décrire l'objet, comme s'il voulait traduire sa réalité concrète en langage. Mais Ponge ne se contente pas de décrire les objets, il cherche aussi à exprimer leur vie antérieure. Pour lui, chaque objet possède une voix qui lui est propre, qui se manifeste à travers sa forme, sa texture, sa couleur, son odeur. Dans la rage de l'expression, il donne la parole à ces objets muets, leur permettant de s'exprimer à travers le langage poétique. L'un des thèmes majeurs de l'œuvre de Ponge est la relation entre l'homme et le monde matériel. À travers sa poésie, Ponge cherche à établir une communication avec les objets, à établir un lien plus direct et plus authentique avec le monde concret. Pour lui, les objets du quotidien ne sont pas de simples objets inertes, mais des êtres vivants qui méritent d'être écoutés et respectés. En somme, la rage de l'expression de Francis Ponge est un vibrant hommage aux objets du quotidien. À travers sa poésie, il nous invite à porter un nouveau regard sur le monde qui nous entoure, à apprécier la beauté et la richesse des choses les plus simples de la vie. Voici un extrait de la rage d'expression, la guêpe.
Hyménoptère au vol félin, souple, d'ailleurs d'apparence tigrée, dont le corps est beaucoup plus lourd que celui du moustique, et les ailes pourtant relativement plus petites mais vibrantes, et sans doute très démultipliées. La guêpe vibre à chaque instant des vibrations nécessaires à la mouche dans une position ultra-critique, pour se défaire du miel ou du papier tue-mouche par exemple. Elle semble vivre dans un état de crise continue qui la rend dangereuse, une sorte de frénésie ou de forcénerie qui la rend aussi brillante, bourdonnante, musicale qu'une corde fort tendue, fort vibrante et dès lors brûlante ou piquante, ce qui rend son contact dangereux. Elle pompe avec ferveur et coup de rein dans la prune violette ou kaki, c'est riche à voir, vraiment un petit appareil extirpeur particulièrement perfectionné au point. Aussi, n'est-ce pas le point formateur du rayon d'or qui mûrit, mais le point formateur du rayon d'or et d'ombre qui emporte le résultat du mûrissement. Mielée, soleilleuse, transporteuse de miel, de sucre, de sirop, hypocrite et hydromélique, la guêpe sur le bord de l'assiette ou de la tasse mal rincée ou du pot de confiture, une attirance irrésistible. Quelle ténacité dans le désir, comme elles sont faites l'une pour l'autre, une véritable aimantation au sucre.
Dans la rage de l'expression, Ponge transforme des objets communs en sujets poétiques. Des objets comme une orange, un galet ou une cigarette sont étudiés sous tous leurs aspects, leur donnant une importance et une signification que l'on ne soupçonne pas habituellement. La relation entre le langage et le monde est une préoccupation constante dans la rage de l'expression de Francis Ponge. Cette œuvre complexe révèle un dialectique où le langage apparaît à la fois comme un outil pour saisir le réel et comme une barrière qui nous empêche d'atteindre une connaissance totale et absolue des choses. D'une part, il considère le langage comme un moyen d'explorer et de décrire le monde. À travers une écriture minutieuse et précise, il cherche à dépeindre les objets de manière à en saisir l'essence. Cependant, Ponge est également conscient des limites du langage. Il exprime souvent une certaine frustration face à l'impossibilité du langage à rendre pleinement compte de la réalité des objets. Cette tension est illustrée par le titre de l'œuvre, « La rage de l'expression », qui évoque à la fois le désir passionné d'exprimer le monde et la difficulté inhérente à cette entreprise. Dans « La rage de l'expression », Ponge illustre la lutte entre le désir d'exprimer le monde avec précision et l'insuffisance du langage pour y parvenir pleinement. C'est une œuvre qui souligne la complexité de notre relation avec le langage, révélant à la fois son potentiel créatif et ses limites. Voici le mimosa.
Chaque branche de mimosa est un perchoir à petit soleil tolérable, à petits enthousiasmes soudains, à joyeuse petite embolie terminale. Oh, qu'il est difficile d'approcher de la caractéristique des choses. Il est réjouissant de voir un être en développement aboutir par un si grand nombre de ses extrémités à de pareils et éclatants succès. Comme dans un feu d'artifice réussi, les fusées se terminent en éclatements de soleil. Cela est plus vrai du mimosa que des autres plantes ou arbustes à fleurs, parce que vraiment aucune autre fleur n'est aussi simplement une éclosion comme telle, purement et simplement un déploiement d'étamines au soleil.
J'aurais voulu te raconter le rose éclatant des sorbets au goût sucré de l'espérance. Je t'aurais porté dans mes bras, angoissé mes démons déjà comme un parieur, tentant sa chance. Le bleu glacé des nuits passées dans les ruelles parisiennes n'aurait plus de secret pour toi. Je t'aurais dévoilé comment je t'ai imaginé si grand alors que tu ne viendras pas. Je voulais te montrer les couleurs, des couleurs vives et éclatantes qui auraient fait battre ton cœur et t'auraient endormi le soir. Je voulais te montrer les couleurs, des couleurs vives et éclatantes qui auraient fait battre ton cœur et auraient pu changer l'histoire. Je t'aurais dit le rouge ardent de la douleur que fait notre sang quand il coule, le gris salé des larmes qui nous assassinent, l'appétit quand parfois la vie nous écroule. Ne reste que le blanc cassé des quatre murs délavés, de la chambre vide sans tes affaires, le violet lisse de la peinture qui dégouline de tes jouets imaginaires. Je voulais te montrer les couleurs, des couleurs vives et éclatantes qui auraient fait battre ton cœur et t'auraient endormi le soir. Je voulais te montrer les couleurs, des couleurs vives et éclatantes qui auraient fait battre ton cœur et auraient pu changer l'histoire. Je voulais te montrer les couleurs, des couleurs vives et éclatantes qui auraient fait battre ton cœur et t'auraient endormi le soir. Je voulais te montrer les couleurs, mais elles sont pâles et menaçantes. Elles m'aveuglent maintenant et me donnent des idées noires.
Francis Ponge est né le 27 mars 1899 dans une famille protestante aisée de Montpellier. Il connaît une enfance paisible. Ses études supérieures se soldent pourtant par un double échec. Il ne parvient pas à obtenir ni sa licence de philosophie, ni son entrée à l'école normale supérieure. En 1931, il entre comme employé messagerie Hachette. Délégué syndical et militant communiste, il perd son emploi lors des grèves de 1936. Et en 1940, il quitte Paris pour s'engager dans la résistance. La publication en 1942 de son premier recueil, Le parti pris des choses, pose les bases de son style poétique. Dans cet ouvrage, composé de courts poèmes en prose, il s'attache à décrire des objets, et bien sûr du quotidien, délibérément choisis pour leur apparence banalité, l'huître, le savon, la cruche et tant d'autres. Il se démarque des surréalistes et joue sur tous les aspects du mot, étymologie, graphie, son, jeu de mots, afin d'abolir la frontière entre le mot et la chose. De retour à Paris après la guerre, il enseigne en continuant son œuvre poétique. Il écrit pour un Malherbe, et c'est bien sûr magistral, où il rapproche ses préoccupations poétiques de ceux de François de Malherbe, son modèle. Salué par Jean-Paul Sartre, il ne fut longtemps lu que par un cercle d'initiés avant d'être consacré en 1984 par le Grand Prix de poésie de l'Académie française. Il meurt le 6 août 1988 à Bar-sur-Loup. Les autres grandes œuvres de Francis Ponge sont « Proème »,« La rage de l'expression » et « Le grand soleil ». Le recueil, le parti pris des choses de Francis Ponge, rassemble une trentaine de textes autonomes, clos sur eux-mêmes et souvent fort brefs. Les choses que le titre évoque ne sont pas simplement les objets que nous côtoyons journellement, il s'agit dans une éventualité plus large des réalités qui sont extérieures à l'homme. Prendre le parti des choses, c'est donc s'intéresser pour eux-mêmes, aux objets, aux animaux, aux végétaux, aux lieux du quotidien. Le titre du recueil, le parti pris des choses, formule de façon claire l'essentiel de sa démarche poétique. Désireux de renouveler les thèmes d'inspiration littéraire, l'écrivain s'est tourné vers le monde, souvent méprisé des objets. Il nous invite à les redécouvrir, à les connaître et à les aimer. La démarche poétique du poète consiste à écouter la muette supplication des choses, à rompre le silence dans lequel elles se trouvent injustement enfermées. Il entend transformer la relation qui unit l'homme au monde en l'incitant à porter un regard nouveau sur les réalités qui l'entourent. Ce vœu conduit le poète à faire table rase de tout a priori, de tout savoir antérieur au moment d'appréhender les choses. Il entend nous faire sentir combien les objets qui nous entourent sont riches. Aussi devons-nous apprendre à redécouvrir les qualités inouïes que recèlent la matière, les richesses, les goûts, les saveurs qu'une longue et indifférente cohabitation nous a fait oublier. L'activité poétique, quel que soit son caractère impersonnel et réfléchi, consiste à retrouver le choc émotionnel, la surprise, le ravissement provoqué par la découverte de l'objet. Francis Ponge ne se contente pas de l'émotion que provoque l'intrusion de l'objet dans le monde opiniâtrement clos de l'homme. Sortant de la passivité que suppose ce premier contact, il entend approcher, décrire, explorer l'objet avec méthode et précision. L'œuvre du poète est un hymne à la richesse, à la variété des choses qui nous entourent. Il ne néglige ni les dictionnaires ni les encyclopédies pour compléter ses écrits. Il assigne à la littérature tout le sérieux d'une tâche scientifique. Centrée sur la connaissance du monde réel, elle doit permettre à l'homme de découvrir, dans sa splendeur et sa diversité, la véritable nature des choses. Le premier souci de Francis Ponge est de donner vie aux objets qu'il contemple. Aussi le fait-il en donnant vie au texte, en rendant compte
de l'épaisseur des choses par l'épaisseur des mots.
Son univers poétique prend racine dans le monde, infiniment diversifié des objets, pour s'épanouir dans celui du langage. Le poète n'a pas seulement cherché à prendre le parti pris des choses, il a aussi et surtout voulu prendre celui du langage. Les mots constituent à ses yeux un monde aussi réel, aussi riche et fécond que le monde sensible dans lequel nous vivons. Le poète tente de façonner l'objet dans le texte, de le manier, le modeler, l'éprouver dans la glaise des mots. Et à propos du cajou et de la bougie, Francis Ponge écrit « Le cajou, objet servant au transport de marchandises périssables, les rend transportables. Il ne survit pas à ce transport puisqu'il ne sert qu'à un seul. Son caractère unique en fait cet objet sans retour qui s'épuise dans le temps de son utilisation, comme l'énonciation du propos qui le sort de cette autre cage où il repose comme mot, le dictionnaire. Il en devient sympathique comme l'expression d'un sens commun où d'aucuns lira la destinée humaine, celle de notre fragilité, périssable. Périssable aussi les fruits et les légumes, périssable le cajou, et ainsi que l'homme est périssable. Voici le cajou.
Le cajou. À mi-chemin de la cage au cachot, la langue française à cajou, simple caissette à claire-voie, vouée au transport de ses fruits, qui de la moindre suffocation font à coup sûr une maladie. Agencé de façon qu'au terme de son usage, il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas de foi. Ainsi dure-t-il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qui l'enferment. À tous les coins de rue qui aboutissent aux halles, il luit alors de l'éclat sans vanité du bois blanc, tout neuf encore et légèrement ahuri d'être dans une pose maladroite, à la voirie jetée sans retour. Cet objet est en somme des plus sympathiques, sur le sort duquel il convient toutefois de ne s'appesantir longuement.
Et à propos de la bougie, il écrit... La bougie est un objet de symbole. La flamme est dans la tradition chrétienne une représentation de l'âme. Et dans son poème, le poète commence par faire de la bougie une étrange plante, qui semble d'abord fleurir d'une flamme pour se faner, mourir d'elle-même. Sa flamme est le lieu d'un combat entre obscurité et clarté, mais aussi d'attaque des insectes attirés par la lumière qui vont se brûler. Allégorie du vivant, représentation de l'esprit et de l'âme. Voici le poème « La bougie ».
La nuit, parfois, ravive une plante singulière dont la lueur décompose les chambres meublées en massifs d'ombre. Sa feuille d'or tient impassible au creux d'une colonnette d'albâtre par un pédoncule très noir. Les papillons miteux l'assaillent de préférence à la lune trop haute qui vaporise les bois. Mais brûlés aussitôt ou vannés dans la bagarre, tous frémissent au bord d'une frénésie voisine de la stupeur. Cependant, la bougie, par le vacillement des clartés, sur le livre au brusque dégagement des fumées originales, encourage le lecteur, puis s'incline sur son assiette et se noie dans son aliment.
Francis Ponge décrit l'huître, le pain et le mollusque. Ainsi, d'abord je vais parler de l'huître. D'apparence grossière, c'est-à-dire rugueuse, contient un monde riche, une perle. Allégorie de la création, poétique. Le poème est l'huître, difficile à ouvrir, mais il contient une perle. Pour le poète, le poème en prose est l'occasion d'un jeu sur les mots. Pour lui, l'huître symbolise le poème en prose. Il faut le creuser pour l'ouvrir. L'huître est le poème contiennent tout un monde et nous fait découvrir un monde inconnu. Le poète va de l'extérieur vers l'intérieur, du visible au caché. Voici l'huître.
L'huître, de la grosseur d'un galet moyen et d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre, c'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles. C'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc d'une sorte de halo. À l'intérieur, l'on trouve tout un monde à boire et à manger, sous un firmament, à proprement parler, de nacre. L'essieu d'en dessus s'affaisse sur l'essieu d'en dessous pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois très rare, une formule perle, à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt assorné.
À propos du pain, le poète nous présente en préliminaire un pain dont il nous raconte ensuite la création. pour nous en dire enfin le destin. Objet commun, le pain contient en puissance le sens du tragique, dont chacun sait qu'il est d'abord sacrificiel. Sacrifice du quotidien qui donne son goût aux mots, car le pain porte en bouche, invite à la parole. Il dit le mystère des choses communes, monde, image du monde. Il témoigne d'un aspect de ce qui le fait être et qui le destine à être mangé. Consommé, car tel est le destin que les étoiles du four cosmogonique inscrivent sur sa surface croûteuse. Voici le pain.
La surface du pain est merveilleuse. D'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire où, durcissant, elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans, dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol, que l'on nomme l'ami, a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises, soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ses fleurs fanent et se retrécissent, elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation.
Et à propos du mollusque, comme pour l'huître, le mollusque se fait allégorie, mais allégorie de lui-même, dans la mesure où il devient le poème de son propre poème. Il a construit la coquille qui le secrète, comme le poème a construit le sens qui le cache. Le poème est sens à découvrir, a comme le mollusque une coquille à ouvrir. Mais à l'intérieur, rien ou presque rien, une qualité, un être sans existence, quelque chose de presque répugnant, un crachat. À l'intérieur du poème, de même, un sens, presque rien, quelque chose de fugitif que nous nous approprions, car l'auteur, celui qui a conçu le poème, est déjà parti, déjà mort. Et nous, occupant sa sépulture, nous nous approprions le tombeau, y découvrant le sens qui nous est et que nous y mettons. Voici le mollusque.
Le mollusque est un être, presque une qualité. Il n'a pas besoin de charpente, mais seulement d'un rempart, quelque chose comme la couleur dans le tube. La nature renonce ici à la présentation du placement en forme. Elle montre seulement qu'elle y tient en l'abritant soigneusement dans un écrin dont la face intérieure est la plus belle. Ce n'est donc pas un simple crachat, mais une réalité des plus précieuses. Le mollusque est doué d'une énergie puissante à se refermer. Ce n'est à vrai dire qu'un muscle, un gong, un blount et sa porte. Le blount ayant sécrété la porte, deux portes légèrement concaves constituent sa demeure entière. Première et dernière demeure, il y loge jusqu'à sa mort, rien à faire pour l'en tirer vivant. La moindre cellule du corps de l'homme tient ainsi, et avec cette force à la parole et réciproquement. Mais parfois, un autre être vient violer ce tombeau lorsqu'il est bien fait et s'y fixer à la place du constructeur défunt. C'est le cas du pagur.
Perchés sur une seule patte, nous sommes deux drôles d'oiseaux vivant sur votre toit, mais ça vous le savez à peine. D'un gris métallique, nous ne sommes pas spécialement beaux, mais nous sommes très utiles, nous sommes les antennes. Une patte en équerre et l'autre tendue, du haut de votre toit, nous admirons la vue. Notre corps est fixe, mais si vous saviez, notre grand rêve à toutes, c'est de voyager. Nous sommes les oiseaux sans plumes, oiseaux sans ailes, oiseaux figés sans charme et qui se tiennent sur une patte de métal, rêvant de s'envoler vers les étoiles. Dans un bruissement d'ailes, nous nous déchaînerons en volant. voler pour toujours. La télévision, nous sommes les oiseaux sans plumes, oiseaux sans ailes, oiseaux figés sans charme et qui se tiennent sur une patte de métal, rêvant de s'envoler vers les étoiles. Les étoiles, les étoiles.
Présentation des livres, des mots pour vous dire, recueil de poésie de Jeannie Arnaud-Médici aux éditions Alcala.
Ce recueil a obtenu le prix spécial du jury 2019 au Salon du Livre de Mirepoix. C'est un voyage au cœur de la vie que Jeannie Arnaud-Médici nous invite dans son dernier recueil, des mots pour vous dire. Des mots emplis d'émotions multiples, des paroles de joie, de peine, des rimes de bonheur, de désir ou de regret. L'auteur parcourt l'existence entre le clair et l'obscur, nous faisant partager, au gré de son écriture inspirée, sa propre vie, mais aussi en écho, celle de chacun d'entre nous. Elle nous offre une œuvre où l'espoir, malgré les errances et les incertitudes de nos existences, reste à portée de main. Une œuvre où les silences et les cris se mêlent, où les voix s'entrecroisent, où les sons s'étirent et font toujours sens. Il ne reste plus alors qu'à se laisser transporter par ces mots qui sauront nous dire, assurément, que les chemins du rêve et de l'espérance nous demeurent encore accessibles. Voici un poème, La Rumeur. Quelques gouttes, quelques mots d'une source, d'une bouche s'échappent, se faufilent à travers les prés, les sentes, se glissent au creux d'une oreille. Quelques gouttes, quelques mots dévalent les pentes, circulent de bouche à oreille, s'unissent à d'autres gouttes. D'autres mots deviennent ruisseaux, torrents rapides, fabulations, calomnies, infamies. Quelques gouttes, quelques mots dans l'océan de vie se sont noyés. Jardin secret. En ce jardin, à nul autre pareil, fleurs cultivées et sauvages, anarchiquement s'entremêlent. De la pâquerette à la rose, des soucis aux orties, aucune ne manque à l'appel. Promeneur solitaire, nous errons en son sein, humant, composant bouquets variés, aux senteurs douces amères. C'est un jardin à nul autre pareil, à portée de main, à portée de cœur, bien dissimulé. Seuls, quelques privilégiés, s'enverront entr'ouvrir l'accès. Jardin secret, jardin précieux, jardin de délices, nos soucis, nos délires, nos envies et nos peines, à jamais tu enchaînes. Sans l'amitié, sans l'amour, les miettes de joie qui jalonnent notre existence ne peuvent soutenir le poids de toute une vie. Le rêve fait place au réalisme, puis au fatalisme. Les hirondelles. Vers des contrées plus clémentes, mes amis s'en sont allés. Le silence enfle l'espace et le ciel en deuil pleure leur absence. Lorsque le soleil à l'horizon flamboyé perle d'ébène sur les fils télégraphiques, leur gazouille, leur fébrilité laissaient deviner l'imminence de leur départ. Un matin, après avoir longtemps tournoyé, accompli moult piquets et autres acrobaties, ce fut l'envol, le bouquet final, mini-mirage dans l'immensité, leur balai dans l'azur s'est évaporé. Pour un long voyage, mes amis s'en sont allés, emportant joie, complicité et rêve d'été.
La pierre d'Orso de Xavier Champenois aux éditions Récamier. À travers l'Italie du XVIIe siècle, un orphelin mène la quête d'une vie. Honorer la mémoire de sa mère assassinée. Un roman envoûtant crépusculaire. Duché de Milan, 1608. Sous des bourrasques de neige, Orso, brisé par la fièvre, assiste au martyr de sa mère, tandis que le corps de la suppliciée brinque-balle au bout d'une corde. Le garçon perçoit des bribes d'une dispute entre un moine et un cavalier manchot avant de perdre connaissance. Il se réveille dans un couvent des lieux du drame. Une seule aspiration guidera désormais sa vie, retrouver la dépouille de Mamina et lui offrir une sépulture. Éduqué comme un enfant de cour, Orso développe des talents exceptionnels pour les mathématiques, le dessin et la gravure qui le permettront de survivre chez différents maîtres artisans, graveurs, luthiers ou horlogers, dont il croisera la route à Brescia, Padoue, Venise et Rome, sans jamais renoncer à accomplir la mission qui le hante. La pierre d'Orso, c'est l'obsession d'un orphelin pour la mémoire de sa mère à travers les États italiens du XVIIe siècle, ravagés par les guerres et les épidémies. Vous rappelez des livres présentés ?
Des mots pour vous dire de Gianni Arnaud Medici.
La pierre d'Orso de Xavier Champenois aux éditions Récamier. Et je voulais insister sur ce que nous allons écouter. C'est un disque qui s'appelle Clamor, dont Sandra Hurtado Ross chante des poèmes de Federico García Lorca, Miguel Ángel Hernández et tant d'autres poètes espagnols. Et dans la signification du mot clamor, elle dit cela. Clameur. Pareil à celle des républicains espagnols se dressant le poing levé contre la dictature et l'oppression, comme mon grand-père Juan et se retrouvant captif dans des prisons froides et funestes pour avoir lutté pour la liberté, comme mon oncle Rubio, laissé pour mort une balle dans la tête et qui trouva refuge dans le creux d'un olivier, obligé de se cacher de ses bourreaux des mois durant. Clameur comme celle des amoureux maudits qui crient leur amour et trouvent le réconfort dans les bras l'un de l'autre, qui contre vent et marée, contre l'adversité, restent liés à jamais, restent liés jusque dans la tombe. Clameur comme le cri d'espoir d'un peuple fuyant la tyrannie, traversant la mer pour une vie meilleure, pour une vie nouvelle, cherchant une terre promise. Certains attendront leur rêve, les autres resteront à jamais dans les eaux profondes, laissant emporter au gré des vagues, au gré des vents, l'espoir qui faisait battre leur cœur et briller la lumière de leur vie. Sandra Hurtado Ross, Clamor, aux éditions Trouba Vos. Voici un extrait.
Salieron jamás del vergel del abrazo y ante el rojo rosal de los besos rodaron. Huracanes quisieron con rencor separarlos y las hachas tajantes rígidos rayos aumentaron la tierra de las pálidas manos, precipicios midieron por el viento impulsado. vez más profundos en sus cuerpos, sus brazos.
Et Viviane Nau nous présente quelques poèmes extraits de son prochain recueil.
Sur le grain de ta peau. Sur le grain de ta peau, j'ai semé un poème. Le soir, dans le lointain, décline ses couleurs en parabole, exultant sans témoin ses ombres farouches et rebelles. Tu viens de si loin. Sais-tu combien ta voix portait l'odeur de la pluie, inondant les champs sous la robe fleurie des ombelles? J'ai guetté les épousailles d'un jour naissant, avec un horizon en flamme. J'ai glorifié l'automne, blotti sous les pastels de ton chandail. J'ai pressenti la ténuité de la première brise dans mes cheveux. J'ai tant attendu. Dans une contemplation de secrets éphémères, j'exile mon corps dans l'errance d'un brasier céleste, où les filtres d'argent conjuguent nos rires dans la sève de nos vies. J'ai tant attendu. Une divine embellie. Comme une voile ivre, les sursauts de la nuit croquent sans fin les nuages rebelles ourlés de promesses. Où es-tu, toi, que je cherche sans fin? J'ai pressenti ton pas dans les limbes d'une brume capricieuse. Lorsque l'éclair ruisselant déchire le ciel, le sang coule dans nos veines, obscur témoin de nos désirs. Nulle part ailleurs, m'as-tu dit, tu ne rencontreras ces beautés éternelles. Sur la colline, gardée jalousement par la petite église, tu embraseras un horizon de feu, caressé par un océan d'écume bleutée. Le vent cueillera pour toi les branches d'immortelles alanguies sur les coteaux. L'effluve de ton parfum jouera sur la lande pour conquérir ton souffle, étreignant ma peau brune. Dans la maison où volaient bleus, tu as écrit pour moi cet absolu de te voir à chaque heure du jour. Nulle part ailleurs, m'avais-tu dit. Une éternelle complicité dans la rencontre de l'infini, pour peindre sur ton corps l'orgueil d'un coucher de soleil et anoblir l'insolence d'une divine embellie. Pour une saison bleue, à la brune, j'ai couru sur la colline. Là-haut, près des étoiles, la nuit se déshabille avec une grâce infinie et fait lentement glisser son voile sur les rives passives du vide. Son sari couleur violine gémit dans les fluides obsédants qui viennent mordre l'horizon translucide. Dans l'obscur d'un tableau matinal, ton corps est là, troublant. Dès que le printemps mordra les premières rosées, m'avais-tu dit, ose froisser les genêts. Ne cueille pas la primevère royale qui parfumera ta peau brune, ni les violettes évanouies d'extase et d'orgueil. Cours, ne te retourne pas. Nous irons ensemble cueillir la première soie des premières roses, réveiller le chant du pinson sous la gloriette aux grappes mauves, car c'est là que je t'attendrai. Au loin, tu entendras le torrent qui prie de folie, écumera sur le lichen mousseux des pierres au ventre rebondi. Lorsque la nuit viendra, je m'allongerai près de toi pour épouser ton corps sous les frissons de simples mots et enrubanner sans fin les saisons bleues dans une longue espérance.
Thank you.
Dans le calice de la nuit, le pollen de la vie se dessine le chemin vers le silence pour entrer dans un jardin où les étranges fleurs mangent des papillons et diffusent des parfums enivrants. Il faut entrer en prière pour que la lumière change de robe et qu'elle vienne éblouir la pierre du temps et donner de la substance essentielle. Le temps conjugue les grains de la voix, parfois dans la douceur des choses, malgré des éclairs soudains. L'écorce de vie se souvient des pluies et des rêves, du tumulte des choses et des lignes suspendues. Le ciel se froisse devant tant de paradoxes. Il n'y a pas d'écriture perdue, simplement l'absence des mots, dans des espaces sans voix, malgré un point illuminé. Le silence est une forme de prière pour tenter de combler les fissures du langage démembré et pour faire avancer l'apprentissage de l'unité. Avec l'encre qui pénètre à l'intérieur des mots, j'ai fait quelques confidences entre les ronds dans l'eau et les pouces levés pour éviter de crier. J'écris toujours dans mes carnets quelques bribes de phrases où le verbe enjambe toujours le passé pour mieux être dans l'instant. Je n'ai pas de formule pour employer des codes de rappel. J'évite de devenir un orphelin de la parole. Certains mots sont tissés de rosées d'inquiétude à la lisière des choses. Ils font souvent un univers mouvant entre des flaques de silence et des tourbillons d'ombre avant de former tout un tas de pierres. Il faut déplier lentement sur l'autel des sentiments les voiles humides de nos dérobades. Veilleur du secret des jours, je tente d'effacer les ombres pour glisser quelques éclats de lumière. Je n'ai jamais voulu mettre la nuit à l'envers pour déshabiller le noir malgré un ciel de traîne. Être un guetteur de signes obscurs du monde pour éviter que ne s'entassent de mystérieuses formules et que ne viennent peupler d'étranges métaphores les éléments du réel. Dans le glissement du jour, la voix de la mémoire remonte les chemins de glaise pendant que la pierre et l'herbe apprennent la parole. Être un émigré intérieur au regard pressant sur les révoltes contenues, égrenant un chapelet de mots étranges sur des images surréelles, sur les vieux chemins. Oubliez, je suis la bordure dans le calice de la nuit. Il me vient parfois des mots un peu étranges, légèrement à côté de leurs pensées, comme si je retrouvais des vestiges du paradis perdu et enfin du ciel retrouvé. J'évite de faire l'aumône de la beauté et de boire à la coupe du vin béni. J'avance dans l'épais herbage tout dépouillé de mystères profanes. Je cueille un grain de blé près d'un coquelicot un peu penché pour le poser sur un lys avant de plonger cette fleur dans une source candide. Pour mes 18 ans, j'ai jeté 17 cailloux à la rivière. Je suis le riverain de l'eau de mon baptême. Mes mots ricochent sur l'onde et viennent embrasser quelques galets bossus. Dans les palpitations de la vie se construit la glaise matricielle pour lutter contre les horizons rouges, afin de cicatriser les blessures subies. Les braises de la nuit maintiennent les loups en lisière.
Thank you.
D'abord, un grand merci à nos techniciens, Michael et Yann. Tous les lundis de 11h à 12h sur Radio FM Plus 91 FM Montpellier, Traces de Lumière, rediffusion tous les lundis de 20h à 21h. Possibilité aussi d'écouter l'émission par internet www.radiofmplus.org. Le prochain rendez-vous de Traces de Lumière sera consacré à Charles Baudelaire, le spleen de Paris, ou petit poème en prose. Vous pouvez écouter les émissions déjà archivées, bien sûr, en allant sur le site www.radiofmplus.org. Je vous souhaite une semaine pleine de bonne lumière et avec la complicité de Viviano, on répète, on vous souhaite
bonne semaine à tous.